Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
Ils ont accompli la folle aventure en plus de 40 jours. L'Hermione, réplique parfaite de la frégate qui emmena Lafayette prêter main forte aux Américains.
Je suis fier d'y être maintenant.
Les mêmes gestes qu'au XVIIIe siècle, les mêmes jeux d'équilibriste le long du grand mât de 54 mètres.
Tiens bon, la vague.
Parcouru de l'île d'Aix jusqu'à Yorktown.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je pars pour de longs mois en laissant Margot ici au.
On nous a à peine parlé par-dessus la voix magnifique de Laurent Voulzy. En tout cas, grâce à lui, là, et on va respirer l'air du large sur RTL. Bienvenue à bord de l'Hermione, cette frégate du XVIIIe siècle, reconstruite à l'identique par une poignée de passionnés, un peu dingue aussi. Notre invitée, la journaliste Béatrice Vallès, a rencontré ces hommes et ces femmes. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans la curiosité. Parmi ces passionnés, il y a un écrivain qui est membre de l'Académie française, Éric Orsenna. Il vous a raconté comment le projet est né. C'est pas mal déjà. Dites-nous.
Alors, ça ne s'est pas passé exactement comme ça.
Dites-nous.
En réalité, c'est pas Éric Orsenna qui me l'a raconté.
Ah bon?
C'est pas grave. Éric Orsenna. Éric Orsenna.
Elle est pas bien votre info, mais c'est pas grave. Non.
Est-ce que les choses sont toujours beaucoup plus compliquées?
Alors allez-y.
Croit.
Moi, on m'a dit, il y a eu un soir de beuverie.
C'est ce que j'ai écrit.
Dans une beuverie.
C'est ce qu'il dit lui.
Ah.
Mais c'est pas tout à fait exact. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Des aventures comme celle-ci ne peuvent pas être le fruit d'une seule personne. C'est pas une personne qui invente un théorème et qui est tout seul. C'est forcément une équipe. Dans cette équipe, il y avait Orsenna. Oui. Il y en avait d'autres, mais Orsenna, il n'a pas fait plus que les autres.
Bien sûr.
Je pense qu'il a même fait un peu moins.
D'accord, mais c'est le plus connu, c'est pour ça que je l'ai cité.
Exactement.
Mais est-ce qu'il était à cette soirée arrosée?
Il était à cette soirée arrosée,
voilà,
mais le bateau, l'idée du bateau était antérieure.
Elle avait déjà été prise. Qui a cette idée du bateau alors?
Mais ils sont plusieurs à l'avoir. Alors, il y a des Parisiens, un certain Bénédicte Donnelly, qui est un franco-américain, qui est quelqu'un qui travaille dans la culture, et Fontaine, l'actuel maire de La Rochelle. Il y a Orsenna, il n'y a que des hommes. Et le maire de Rochefort, qui s'appelle Jean-Louis Fraud.
Le maire de l'époque, parce qu'on est en cours.
Là, il n'est plus maire. Oui.
On est en juillet 97 quand l'idée devient concrète et qu'ils se disent on y va, c'est ça?
Non, bien avant. L'idée du bateau arrive effectivement à ce moment-là, mais elle est le moteur de cette idée remonte à quelques initiatives précédentes qui sont le fait du maire de Rochefort de l'époque, qui s'appelle le fameux Jean-Louis Fraud. Et Jean-Louis Fraud est.
Mais quand est-ce qu'on dit on y va? On commence à construire l'Hermione.
Je peux dire ma phrase?
Allez-y.
Il se trouve que le Jean-Louis Fraud en question est, à mon avis, l'initiateur, sans s'en rendre compte. À son insu, il est l'initiateur. Pourquoi? Il est maire de Rochefort. Rochefort est une ville un peu spéciale, objectivement assez laide, sinon franchement moche.
Ça va faire plaisir aux auditeurs de Rochefort.
Non, mais je pense qu'ils le partagent, hein, c'est une idée. Et une idée totalement fausse quand on voit les demoiselles de Rochefort. Ça n'a rien à voir.
Et il fallait rebooster la ville, c'est ça?
Il a une espèce de folie de restauration d'un patrimoine puissant dans sa ville. Et ça part. Et la restauration du patrimoine, c'est l'accorderie royale.
C'est quoi l'accorderie royale?
Alors, l'accorderie royale, c'est un magnifique bâtiment qui. Au XVIIe siècle, a été construite sur une initiative de Colbert, ministre de Louis XIV, qui, à l'époque, avait pensé que La Rochelle n'était pas une ville qui était une ville vulnérable avec les Anglais qui attaquaient tout le temps. Et donc, ils ont créé un arsenal beaucoup plus protégé.
À Rochefort.
Ça, c'est Rochefort.
D'accord.
La Rochelle, ça n'allait plus du tout. Donc, Rochefort est en effet une forteresse. Et l'accorderie est un immense bâtiment d'une très très grande beauté que les Allemands ont complètement dézingué à la Deuxième Guerre mondiale. Et le fameux Fraud, le maire, a décidé de restaurer l'accorderie. L'accorderie, ça servait à faire des cordes.
On commence à comprendre. Donc, il y a d'abord eu la restauration de l'accorderie royale. Voilà. Et à peu près la même bande, les mêmes passionnés se sont dit... Il faut recréer l'Hermione.
Exactement. L'idée était que le patrimoine passif, c'est très bien, c'est la corderie. Il y avait un autre patrimoine passif dans la ville qu'il était difficile de retrouver parce que c'est une ville qui en plus a l'inconvénient d'être construite sur des marécages, donc il y a de la boue partout. Il y a deux radous. Les radous, ce sont des cales sèches pour les bateaux. Et les radous, c'est des choses très très précieuses. Et comme Rochefort était un arsenal qui produisait énormément de bateaux, avec Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, ils avaient des radous. Et les radous, une fois qu'ils ont bien nettoyé le radou, ils se sont dit, il faut mettre un bateau dedans. Et l'idée du bateau est arrivée à ce moment-là.
D'accord. On va raconter l'histoire, évidemment, de l'Hermione. Il y en a eu plusieurs. On va aussi apprendre à connaître ceux qui ont participé à la reconstruction de l'Hermione. Mais d'abord, un mot des festivités prévues ce week-end à Rochefort. Pourquoi est-ce que c'est symbolique pour l'Hermione de revenir à Rochefort?
Alors là, franchement, c'est plus que symbolique. C'est absolument légitime parce que l'Hermione numéro 1, celui, la frégate que Lafayette a emprunté en 1780.
C'était la 2. Il y en avait eu une avant. Si
oui, enfin la 2.
Ah, d'accord.
Mais la 1.
Ah, oui. Non, mais parce qu'il y a eu 4 Hermione.
Oui.
Donc la première.
Je suis un peu paumé, moi.
Moi aussi,
dire.
Donc.
Oui, mais c'est
d'accord.
Pas. Oui, on a. Ah, la 4e, sinon... c'est celle, la fausse.
D'accord.
La fausse, mais qui est un vrai clone de la première et de la deuxième.
Donc celle de Lafayette, c'est la numéro 2.
Voilà. Et d'accord. Donc, comme elle avait été construite à Rochefort. Que le clone d'aujourd'hui a également été construit à Rochefort, il est naturel qu'il revienne à Rochefort.
Qu'est-ce qui va se passer ce week-end à Rochefort?
Alors, je sais, ils vont faire des tas de fêtes un peu costumées en 18e siècle. Et à mon avis, bon, ils vont être très heureux de voir revenir ce bateau qui arrive samedi dans l'après-midi. Hein.
Est-ce qu'on va pouvoir le visiter, ce bateau, l'Hermione? Non.
Pas ce week-end, le 4.
À partir du 4 septembre.
À partir du 4 septembre, il y aura des visites du bateau. Et franchement, il faut le voir pour le croire. Parce que je vous assure, drôle de bateau.
Non, mais décrivez-le-nous.
Ah, c'est un bateau hallucinant. Parce que moi, je l'avais découvert en chantier. Et j'ai presque envie de dire que je l'ai découvert par hasard à l'occasion d'une croisière que je faisais. Je fais souvent des croisières en bateau avec des amis. On va à Rochefort voir ce bateau en chantier. Et là, pour le livre, je l'ai visité avec le commandant qui m'a entraîné partout. Et je crois que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'est très difficile à expliquer. Tant c'est beau.
C'est gigantesque.
Pas du tout.
Il y a du bois.
C'est petit. C'est petit. Ça mesure 4 mètres de long, 11 mètres de large.
Oui, c'est petit.
En revanche, vous avez des mâts gigantesques et une voilure. Mais énorme, hein, des mètres carrés de voile, qui fait que c'est un peu, c'est presque dérangeant parce qu'on se dit que c'est une coquille de noix, parce qu'il y a une disproportion absolue entre la taille du mât et donc les voiles qui vont prendre le vent. Et quand le bateau est parti, je me suis dit, pourvu qu'il n'y ait pas de naufrage, parce que c'était un bateau fragile. Hein.
Ouais, 40 mètres de long et bateau fragile, c'est ce que vous dit l'un des artisans qui a participé à la construction de l'Hermione dans votre livre. Résurrection de l'Hermione, la folle équipée, qui est publiée aux ateliers Henri Dougier. Béatrice Vallès, il était aux États-Unis cet été, l'Hermione. Est-ce que certains des artisans qui l'ont reconstruit ont pu aller à Boston, à Philadelphie?
Oui. Mais par exemple, dans le livre, les deux artisans vraiment très solitaires, je dirais, qui ont travaillé, non pas des entreprises, c'est Lavoilière, Anne Renault, et le forgeron, qui sont deux jeunes gens, ils sont absolument passionnants. Et faisaient même partie de l'équipage. Ils ont tenu à être dans l'équipage et c'était indispensable parce qu'ils devaient en même temps suivre et repérer s'il y avait des problèmes dans les voilures, justement, pour éviter les naufrages, et si tout ce qui avait été fait en fer pouvait tenir le coup. Donc...
La voilière, vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que c'est que ce métier qui existait déjà du temps de l'Hermione
et moi, j'ai envie d'embarquer,
reconstitué aujourd'hui.
J'ai envie d'embarquer sur l'Hermione de Monsieur de Lafayette, c'est possible?
Ben oui, on va y aller.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
Voilà, avec tout le jargon de marin que l'on connaît, on vous propose une balade en mer dans la,
posez cette chope de rhum,
dans la curiosité. Non, non, vous pouvez vérifier sur RTL.fr. Je n'ai rien bu.
Enfin, si,
que de l'eau. Enfin, voilà. Ouais, d'ailleurs, je n'ai plus rien à boire. Donc, on se projette il y a 235 ans, jour pour jour, 27 août 1780, à bord de l'Hermione. On se battait, Béatrice Vallès. Il y avait des combats. Il était arrivé sur les côtes américaines.
Ah oui, 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 il y avait des combats. Mais en même temps, Lafayette, quand il a pris l'Hermione, il l'a pris, il aurait pris n'importe quel autre bateau.
Ah, c'est un hasard ?
Total.
Elle choisit l'Hermione au hasard.
Mais oui, en réalité, il veut aller en Amérique. Et là, il a l'autorisation de Louis XVI. Il y était déjà allé en Amérique. Il s'était fait des tas de copains, dont Washington.
Général Washington.
Oui. Après, il revient et il convainc Louis XVI d'aller aider les insurgés français contre les Anglais. Donc, Louis XVI lui donne l'accord et il lui dit, bah, allez-y, débrouillez-vous. Et donc, il se débrouille et le voilà qui atterrit, si j'ose dire, sur l'Hermione, qui n'était pas du tout un bateau qui était destiné à faire des traversées. C'était...
Oui, mais c'était un bateau de guerre quand même.
Tout à fait, mais lui, il aurait pu prendre un chalutier, c'était pareil. Hein.
Quand il part avec l'Hermione Lafayette, il y a combien d'hommes à son bord ?
300.
Mais ça tient 300 hommes dans le bateau,
c'est là que je pense qu'il faut que les gens aillent visiter ce bateau.
On a parlé d'un bateau de 11 mètres de long, c'est ça ?
Non, voilà. 40, alors, il faut 40 mètres de long sur 11 mètres de large, c'est ça ?
Non, 4 mètres de long.
Mais non, ça ne peut pas faire 4 mètres de long.
Non, 40 mètres de long, 11 mètres de large. Et il y a plusieurs, il y a trois ponts. Mais ils sont si bas, les ponts, que... Alors, je suis grande, d'accord, mais on avance voûté. On ne peut pas avancer droit.
Vous faites quelle taille ?
1m77.
C'est une jolie taille. Et donc, on ne peut pas... Vous ne pouvez pas, vous, avec 1m77, vous tenir droite
Quasiment pas, sur chacun des plateaux. Mm-hmm. Et, sauf, évidemment, le pont aérien. Enfin, le pont...
Oui, bien sûr. Heureusement.
Et alors, à l'époque, en cale-cale, il y avait des moutons.
Ah bon ?
Oui, parce qu'il fallait qu'ils mangent de la chair
fraîche.
Et donc, ils tuaient les moutons au fur et à mesure. Donc, il y avait une soixantaine de moutons.
C'était pas la croisière de
rêve. Ça occupait pas mal d'espace. Après, il y avait tous ces soldats, tous ces matelots, et qui étaient empilés, mais alors n'importe comment. Franchement, pour avoir fait le tour du bateau, je me demande comment tenaient 300 personnes. C'est pas possible. Déjà là, ils étaient 80. Sans moutons, avec des congélateurs à la place. Là, ils avaient des congélateurs, ils avaient des douches, là, il n'y avait évidemment pas de sanitaire, il n'y avait rien, c'était totalement spartiate. Mais là, c'est quand même pas des vraies croisières, hein. Franchement, il faut avoir envie de partir sur ce bateau.
Même aujourd'hui, pardon Sidonie, quand même des conditions assez dures sur l'Hermione de 2015.
Oui. Moi, je fais beaucoup de bateaux, et franchement, celui-là, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait.
Alors sur ce bateau qui approche des côtes américaines, il y a donc Lafayette, son nom va traverser les siècles, Gilbert du Motier de Lafayette, marquis de son état. Est-ce qu'il est déjà célèbre ?
Un petit mouton, Thomas ?
Est-ce qu'il a un petit Mais alors je connais pas la technique pour
Je vous laisse vous débrouiller.
Transformer cet animal mignon comme tout, qui belle en steak. Voilà, vous voyez, donc on va le laisser là où il est.
On va demander à notre invité.
On va surtout demander à notre invité, Béatrice Vallès, si Lafayette était connu déjà avant de monter à bord de
l'Hermione. Lafayette était déjà connu parce qu'il était d'abord une famille très connue de militaires. Mm-hmm. Lui-même était militaire et il était militaire chez les mousquetaires noirs du roi. Et les mousquetaires noirs du roi, c'est pas qu'ils étaient noirs, c'est que leurs chevaux étaient noirs. Et en fonction de la couleur des chevaux, vous apparteniez à tel groupe de mousquetaires. Mmh. Et la réputation, la plus belle réputation était celle des mousquetaires noirs comparée aux mousquetaires gris. La robe du cheval gris. Voilà, donc il était mousquetaire noir, il était plutôt bon militaire. Et puis, il est entré en politique assez rapidement, puisqu'il s'est dit qu'il allait faire œuvre d'humanité. Mmh. Et ça, je dois dire qu'il a bien joué. C'était une très bonne idée d'aller aider les insurgés, ça c'est sûr.
Béatrice Vallès, vous racontez cette histoire dans un livre, Résurrection de l'Hermione, la folle équipée, publié aux ateliers Henri Dougier. Vous le dites, Lafayette, c'était un bon communicant aussi.
Voilà.
Avec nos mots d'aujourd'hui.
Oui, bien voilà. Sûr.
C'est quelqu'un qui... avait sans doute un certain talent et sans doute des convictions, mais qui avait si on en croit ses détracteurs, ils sont nombreux. Hein. Mm-hmm. Il avait un défaut majeur, il était totalement opportuniste. Donc il allait là où allait le vent. Donc il y a à un moment, il s'est retrouvé avec un peu tout le monde contre lui.
Mais à bord de
Chateaubriand, par exemple, ne peut pas le supporter. Si vous lisez les Mémoires d'Outre-Tombe, oui. Il s'en prend. Mais c'est horrible.
Vrai. Ah, oui. Napoléon, quelques années plus tard aussi, Napoléon, n'aimerait pas du tout, voilà. Lafayette.
Voilà. Mais parce que c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui à la fois des convictions et en même temps, par exemple, le peuple de Paris l'adore pendant la Révolution.
Oui.
Il est monarchiste constitutionnel. Il n'est pas pour une république. Mm-hmm. C'est un révolutionnaire modéré. Mais néanmoins, il est très imprégné des idées des Lumières, donc c'est plutôt un type bien. Mais un jour où il y a une émeute des Parisiens, il est à ce moment-là chef de la garde et il ordonne à la garde de tirer sur les Parisiens. Donc là, il est devenu soudain le bourreau. Mmh. Alors là, plus personne n'a plus supporté en France.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'il est assez controversé en France.
Alors qu'aux États-Unis, son nom résonne encore. Il est adulé.
Absolument. Adulé.
Il y a beaucoup de lieux aux États-Unis.
Énormément.
Qui portent le nom de Lafayette.
Oui, il y en a dans tout à peu près. Je les ai recensés, mais j'ai un peu oublié.
Il y a une montagne. J'ai lu ça dans votre livre.
Oui, oui.
Qui porte le nom de Lafayette.
Il y a des places. À Washington, il a sa statue,
oui.
Quasiment devant la Maison Blanche. Non, il est et sans doute à juste titre. Alors même que arrivant avec l'Hermione, là, on célèbre l'Hermione, mais lui, il est descendu du bateau. Il n'est pas resté sur le bateau. Il a rien fait sur ce
il
bateau.
Il n'a pas participé au combat.
Non, pas du tout. Il a participé à terre.
D'accord.
En Virginie notamment.
Et l'Hermione.
Mais l'Hermione. Après, l'Hermione guerroyait, oui, elle a des canons, l'Hermione.
Et une fois qu'elle avait fini de guerroyer, l'Hermione, qu'est-ce qu'elle est devenue ?
Elle est revenue en France.
Ouais. Après, elle a été utilisée dans le commerce, parce que ce sont des bateaux qui étaient utilisés surtout parce qu'ils allaient très très vite. On les appelle aujourd'hui les Formule 1 des mers. Et c'est vrai qu'ils allaient très très vite grâce à leur énorme voile. Et donc, ils accompagnaient les navires de commerce au cas où il y aurait eu des pirates, des choses comme ça. Et donc, il les protégeait. Donc, l'Hermione a fait ça pendant un bon moment.
Et puis, elle a fini par sombrer au large du Croisic.
Oui.
Dans quelles circonstances ?
Parce que le commandant... le commandant qui commandait l'Hermione du temps de Lafayette.
Mm-hmm.
C'est un autre dont le nom n'est pas resté dans l'histoire. Était nul. Ainsi que tous ses matelots, mais c'est vrai, il est allé s'échouer sur des rochers, c'est puis voilà,
et chose
un triste sort.
Son encre n'a été remontée qu'en 2005.
Voilà. Et alors c'est une encre qui est gigantesque que j'ai vue, qui mesure 4 mètres, qui pèse 2 tonnes et qu'on peut aller voir. C'est intéressant. Toutes ces choses-là sont intéressantes parce que.
Mais c'est pour ça qu'on vous a invité.
Je vous remercie.
Non, où est-ce qu'on peut la voir ?
Moi-même. Eh bien, on peut la voir au musée du château des Ducs de Bretagne à Nantes.
Eh ben voilà, une autre belle visite à faire pour ce week-end. On fait la liste des Hermione.
Bah oui, alors Hermione 1, bon voilà. Ouais. Hermione 2, c'est celle de Lafayette.
Elle a sombré au large du Croisic.
Voilà. Une troisième Hermione sera construite sous Napoléon. Et une quatrième, donc baptisée en 2004, celle que l'on peut voir ce week-end à Rochefort. On vous fait rencontrer les artisans et les passionnés qui ont réalisé cette réplique à l'identique. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Avec la journaliste Béatrice Vallès qui publie Résurrection de l'Hermione, la folle et équipée, nous, aux éditions Bleu, Atelier Satan pour moi. Atelier, on est touché. C'est la fin de la journée.
C'est pétole, il n'y a plus de vent dans les voiles. Là.
On se lâche là, on tangue, c'est incroyable. On parle de cette frégate magnifique que vous pouvez admirer ce week-end à Rochefort, dans sa ville d'origine. Imaginez le temps qu'il a fallu pour la reconstruire à l'identique. 17 ans de travail et 25 millions d'euros pour relever ce défi. Qui a financé ce projet, Béatrice ?
Pour aller vite, c'est essentiellement le public.
Comment ça, le public ?
Vous, si vous y étiez allé sur le chantier, moi, je suis allé sur le chantier, la billetterie a financé le bateau.
Ah, quoi,
et c'est
70,
pourquoi ça a duré
80%?
Si long. Ben oui.
D'accord.
Et c'est pourquoi le chantier, la construction a été si longue, alors que l'Hermione de Lafayette en 1780, ils l'ont construite en 6 mois. Là, il a fallu 17 ans.
Oui.
Parce qu'il y avait des moments où ils n'avaient pas d'argent, donc ils arrêtaient le chantier.
D'accord.
Et donc, il y avait. Et la billetterie venait donc de gens. Si vous étiez arrêté à Rochefort, qui allait visiter le chantier, et on voyait les ouvriers les artisans, incroyable, en train de travailler, et l'argent qu'on donnait pour payer notre place, eh bien, était versé. Et
il y a des gens qui ont fait des dons aussi.
Alors, il y a aussi la région Poitou-Charentes. Ségolène Royal a donné de l'argent, avant elle, Raffarin, enfin, l'État, rien.
D'accord.
Mais les gens qui ont eu cette idée en étaient finalement assez contents parce qu'ils ont gardé leur totale liberté du début à la fin, et c'était finalement beaucoup mieux. Le maire de Rochefort a donné de l'argent, mais c'est pour 70% le public.
Donc c'est ce qu'on appelle un chantier in vivo, c'est ça ?
C'est exactement un chantier in vivo.
Et dans votre livre, vous donnez la parole à François Asselin. Qui est François Asselin ? Le maître charpentier, en quelque sorte ?
C'est ça. Alors, François Asselin, il possède une entreprise de charpente. Tous ces gens sont des artisans d'art. Hein. Et il est plutôt spécialisé dans les cathédrales. Restauration des cathédrales. D'accord. Et quand un appel d'offres est fait dans la région, parce qu'il faut faire travailler la région, ce qui est normal puisque la région paye, il a la bonne idée de présenter, j'ai trouvé cette idée magnifique, il a présenté des photos de ces cathédrales à l'envers, le toit de la cathédrale à l'envers, et ça faisait une coque de bateau. Et il a été pris parce que, un, c'était malicieux, et deux, il était très très doué. Donc Asselin qui a fait toute la charpente.
Mais c'était pas facile pour ces artisans, pour ces maîtres charpentiers, de travailler comme ça sous le regard du public.
Alors, d'après ce qu'ils m'ont tous dit, au début c'est très pénible parce qu'ils ont un peu l'impression d'être des singes en cage, et après ils ont oublié. Et la bonne idée aussi, c'est que je pense qu'aux États-Unis, un chantier de cette nature aurait été assez vite ridicule parce qu'on les aurait sans doute habillés avec des costumes de l'époque, alors que là, non, ils étaient comme on est aujourd'hui. Et moi qui ai assisté, puisque je suis allée en visiteuse, je les voyais mettre leurs clous, je les voyais. Enfin,
mais sur quoi ils se sont basés ?
Alors, ils avaient très peu de documents français, parce qu'en France, on a peu d'archives sur ces bateaux, alors que c'était des bateaux français, et dont la France pouvait vraiment être fière. Et heureusement, un bateau de la même, de même modèle que l'Hermione a été attrapé par les Anglais, et les Anglais ont gardé tous les documents sur la construction du bateau. Ils sont allés chercher les documents précieux en Angleterre, la Royal Navy leur a donné.
François Asselin, qui supervisait le travail des charpentiers, il a dit que c'était un bateau fragile, l'Hermione.
Oui, mais il est fragile pour les raisons que je disais tout à l'heure. C'est que, comme le mât est très 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 grand, comparé à la taille du bateau, ça tangue, sérieusement même. Et s'il y a trop de vent dans la voilure, le mât peut casser et le bateau se retourner.
Alors, il y a un autre.
C'est l'inconvénient de l'avantage. C'est l'avantage, c'est qu'il va très très vite, et l'inconvénient, c'est qu'il est fragile. D'où l'importance des voiles.
Et d'une femme, Anne Renaud, maître voilière. C'est un métier ancien, ça ?
Alors, maître voilière, déjà, des femmes, non, il n'y avait pas de maître voilière.
Oui, c'est ça.
C'est un métier récent.
On disait maître voilier, c'est ça.
Pour les femmes, c'est tout à fait nouveau, parce qu'on considérait avant, notamment à Rochefort, à l'arsenal de Rochefort, qu'une femme n'était pas capable de coudre des voiles, c'était pas un métier de femme.
Alors, maître voilier, c'est ça, c'est coudre des voiles, c'est découper, coudre des voiles.
C'est ça. Et avec des matières nobles, plus nobles que le polyester qu'on utilise aujourd'hui. Donc là, le chanvre, le coton. Chanvre et coton. Et tout est fait à la main.
C'est un métier de solitaire, c'est-à-dire qu'on...
Ah oui.
Ouais.
Alors elle, je l'ai vu travailler, je l'ai vu faire ses œillets. Alors les œillets, ce sont des espèces de... des cercles en métal. Et elle les coud à la main. Alors elle a comme des gants, parce qu'il faut pousser l'aiguille à la main, c'est quelque chose. Hein. Et dans ses œillets vont passer les cordes. C'est
donc
tout le cordage qui passe dans les œillets.
Alors
elle a une
solide.
Quantité, ben oui, et elle avait une quantité d'œillets à faire. Alors elle n'a fait que les œillets. Elle a fait aussi les patrons, les voiles, mais c'est pas elle qui a cousu les voiles. Alors il n'aurait pas eu le temps.
Mais elles ont été cousues à main d'homme ou par des machines
les voiles ? Elles ont été cousues à la machine. Il n'aurait pas eu le temps.
D'accord.
Il y a un autre personnage qui a joué un rôle important dans cette reconstitution réplique de l'Hermione, c'est Bénédicte Donnelly. Vous le surnommez, le grand Manitou. Pourquoi ?
Parce que sans lui, je pense que sans lui, l'affaire n'aurait peut-être pas abouti. Parce que ce type a une énergie, une obstination et absolument un désintérêt total. Il n'a pas gagné
rôle.
Il est dans la culture, il travaille. Ouais. Et là, il était salarié du centre de la mer de la Corderie Royale.
D'accord.
La Corderie Royale de Rochefort.
Et il est franco-américain, ce qui symboliquement n'est pas neutre vu
absolument.
L'histoire de
Et son père, en plus, son père est venu sur. Les plages du débarquement.
Et puis il faudrait aussi parler du commandant du bateau qui est allé jusqu'aux États-Unis. On va juste dire son nom.
Yann Cariou, voilà. Un type formidable.
Et ben voilà, on termine là-dessus. Merci beaucoup Béatrice Vallès. Votre livre Résurrection de l'Hermione, La folle équipée, est publié aux ateliers Henri Dougier.
Vous écoutez RTL.